tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nathalie Barge et Chérubin Dorcil pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Au sommaire, ce 18 novembre 2014, le pouvoir appartient au peuple, dixit Michel Kafando, qui a prêté serment ce matin en tant que président de transition burkinabé.
Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire.
En Côte d'Ivoire, grogne des militaires qui réclament l'avancement prévu dans l'accord de paix de Ouagadougou.
Ibeka en guerre contre Ebola au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré la population dans le sud de frontalier à la Guinée.
La tension monte à Jérusalem après l'attaque meurtrière contre une synagogue.
Crise dans l'est de l'Ukraine, Berlin appelle Kiev et Moscou à s'en tenir aux accords de paix pour apaiser les tensions.
Nucléaire iranien, si les demandes ne sont pas trop exigeantes, un accord est possible, a déclaré à Vienne le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif.
Et nous aurons en fin d'émission les sports et la musique, mais avant tout le journal.
Michel Kafando a été investi président intérimaire du Burkina Faso ce matin avec la tâche de conduire la transition pendant un an jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Monsieur Kafando, un ex-diplomate, a promis de respecter la constitution et la charte de transition lors de sa prestation de serment à Ouagadougou, qui a été retransmise sur la chaîne nationale. Un extrait de son discours. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, nous reviendrons sur la situation dans ce pays dans la seconde partie de cette édition.
Le Mali, qui avait été épargné par l'épidémie d'Ebola, a enregistré 5 cas de fièvre hémorragique et 4 décès. Des centaines de personnes ont été placées en quarantaine, y compris des casques bleus traités dans l'hôpital de Bamako où travaillait un infirmier ayant succombé à la maladie. Aucun passager ne doit échapper au contrôle sanitaire. C'est le message du président Ibeka au personnel de santé et aux forces de sécurité de Kourémalé à la frontière guinéenne. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu dans la localité pour sensibiliser ses compatriotes sur les mesures d'hygiène et de prévention contre le virus Ebola. Voici un reportage de Kassim Traoré.
Après le centre d'isolement de Bamako, Ibeka est allé à Kourémalé, situé à 90 km de Bamako, à la frontière guinéenne. Ici, l'équipe sanitaire s'active.
Le nom du chauffeur, qui est Mamadou Keïta.
Numéro d'immatriculation.
Numéro de véhicule. Il vient de Kourémalé, va à Bamako, précisément à Dravela. Le numéro de téléphone et la température.
Très bien.
Ça a été une occasion pour le président malien d'appeler à la mobilisation générale et d'encourager les agents sanitaires et les forces de sécurité.
Nous ne fermerons jamais la frontière de la Guinée, c'est nous-mêmes, mais nous allons contrôler. En faisant cela, nous allons même aider le peuple guinéen lui-même et nous aider nous aussi. Donc pas de complaisance, il faut que tout soit fait avec la plus grande rigueur. On peut arrêter l'Ebola, on doit arrêter l'Ebola et on arrêtera l'Ebola, Inch'Allah.
Le travail de contrôle des passagers en provenance de la Guinée se fait mais de façon difficile. Mahamadou Kaoudjabi, chef du bureau des douanes de Kourémalé.
Chaque jour, nous pouvons recevoir directement plus de 2000 à 2500 passagers. Vous voyez déjà pour le contrôle, ce n'est pas aussi facile.
C'est avec l'annonce de l'arrivée du chef de l'État que l'équipe médicale a eu des matériels. 80 agents de santé maliens ont subi volontairement l'essai clinique du vaccin contre Ebola en phase d'expérimentation au Mali. Les résultats sont attendus dans les jours à venir. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, des militaires réclamant de l'avancement et de meilleurs soldes ont manifesté dans plusieurs villes. La grogne a démarré à Boaké, deuxième ville du pays, où ils ont monté des barricades et bloqué la circulation, puis s'est propagée au camp Kouédou, la principale caserne d'Abidjan. Les soldats en colère ont tiré en l'air à Bondoukou et à Bengourou, dans l'est du pays. Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, leur a demandé de regagner leur poste et a promis de satisfaire certaines de leurs revendications.
Serge Lazarevich, le dernier Français détenu en otage par Al-Qaïda au Maghreb islamique, est apparu dans une vidéo mise en ligne sur Internet, affirmant être malade et que sa vie est en danger. Il appelle le président François Hollande à tout faire pour sa libération. Selon l'AFP, l'Élysée a confirmé l'authenticité de la vidéo. Le Français a été enlevé le 24 novembre 2011.
Selon l'AFP, le Premier ministre français Manuel Valls se rendra en fin de semaine au Tchad, puis au Niger, pour rencontrer les soldats français stationnés dans ces deux pays. Il s'agira de son premier déplacement officiel hors d'Europe depuis sa nomination le 31 mars dernier.
Dans un nouveau rapport, Human Rights Watch accuse la police congolaise d'avoir sommairement tué des dizaines de jeunes hommes et garçons et dénonce des disparitions forcées qui auraient eu lieu lors de l'opération Likofi, une campagne anticriminalité lancée il y a un an. Cette opération visait les membres présumés de gangs dans la capitale Kinshasa.
Le personnel de Gabon Télécom, filiale de Maroc Télécom, est en grève depuis le jeudi 13 novembre et menace de couper les lignes téléphoniques et Internet. Les grévistes gabonais exigent le paiement des primes et l'augmentation de la prime de logement.
Et notamment en Afrique du Sud, les services postaux sont complètement bloqués à cause d'une grève de 3 mois. Des montagnes de courriers se sont entassées, les factures d'eau, d'électricité n'arrivent plus aux clients. C'est la grève la plus longue dans le pays depuis fin 2012.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, 2 Palestiniens ont tué 4 Israéliens dans une synagogue de Jérusalem. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la ville sainte, en proie à des heurts quotidiens. Le point avec Idriss Fall.
L'attaque s'est produite dans une synagogue de Jérusalem. 2 cousins palestiniens armés de haches et pistolets sont entrés pendant la prière juive du matin. Ils ont fait 4 morts et 8 blessés, dont 1 grièvement. Les assaillants ont été abattus par les forces de l'ordre arrivées rapidement sur les lieux. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de répondre avec une main de fer. Washington a dénoncé un acte d'une brutalité insensée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui aussi condamné, mais le Hamas et le djihad islamique ont salué l'attaque qui n'a pas été revendiquée. Dimanche soir, un chauffeur de bus palestinien a été retrouvé pendu dans son dépôt à Jérusalem. Depuis, la tension est montée d'un cran dans la ville sainte, prise dans une spirale de violence depuis juillet. Des extrémistes juifs avaient brûlé vif un jeune Palestinien après le meurtre de 3 Israéliens. Le mois dernier, un Palestinien a jeté sa voiture sur un arrêt de tramway et 2 autres attentats à la voiture Bélier ont ensanglanté Jérusalem et la Cisjordanie avec une série d'attaques au couteau jusqu'à Tel Aviv.
La Russie a lancé une sérieuse opération de mobilisation militaire tant à l'intérieur de l'Ukraine que dans la zone frontalière, a fait savoir le secrétaire général de l'OTAN. Des troupes et des équipements militaires sophistiqués sont impliqués dans l'opération, a déclaré Jens Stoltenberg aujourd'hui à Bruxelles. Un retrait de ces forces russes contribuerait à une résolution pacifique du conflit en Ukraine, a-t-il ajouté.
Une véritable course contre la montre s'est engagée cette semaine dans la capitale autrichienne pour conclure un accord sur le programme nucléaire de l'Iran. Jacques Aristide.
Les pourparlers ont repris ce mardi à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances mondiales, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne. Le secrétaire d'État américain s'est montré prudemment optimiste, John Kerry, qualifiant les négociations de cruciales. Pour le chef de la diplomatie américaine, il est impératif que l'Iran prouve au monde que son programme nucléaire est pacifique, c'est-à-dire que ce programme ne servira pas à développer l'arme nucléaire. Quant à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, il a laissé entendre qu'une entente était possible, mais a prévenu les médiateurs occidentaux contre ce qu'il appelle toute demande excessive. Jusqu'à maintenant, les tractations se sont achoppées sur la capacité d'enrichissement d'uranium réclamée par l'Iran. L'uranium peut aider à fabriquer la bombe atomique s'il est enrichi à un niveau élevé, mais sert de combustible à la production d'électricité à un faible degré. La communauté internationale exige de fermes garanties en échange de la levée des sanctions qui étranglent l'économie iranienne. La date butoir pour sceller un pacte définitif a été fixée au 24 novembre.
L'envoyé spécial de l'ONU en Irak a appelé tous les groupes qui ne sont pas affiliés à l'organisation État islamique à discuter avec Bagdad pour résoudre leurs différends et rejoindre la campagne du gouvernement contre les islamistes. Prenant la parole aujourd'hui devant le Conseil de sécurité, Nikolai Madlenov a déclaré que la stratégie du nouveau gouvernement irakien d'enrôler des Kurdes et des membres de tribus locales pour aider à lutter contre les djihadistes commence à porter ses fruits, n'est-ce pas Gabi?
Les Irakiens ont enregistré la semaine passée leur plus grande victoire depuis le début de l'offensive de l'État islamique en reprenant le contrôle de la ville de Baïji. Selon le diplomate onusien, au moins 10 000 civils ont été tués et 20 000 blessés en Irak cette année, tandis que près de 2 millions de personnes ont été déplacées.
Le nombre de victimes d'attaques terroristes a augmenté de plus de 60% entre 2012 et 2013, en grande partie à cause des conflits au Nigeria et au Moyen-Orient, relève l'Institut pour l'économie et la paix. L'index mondial du terrorisme, publié par cette organisation basée en Australie, a dénombré près de 18 000 attaques en 2013, soit une hausse d'environ 7 000 par rapport à 2012. Le nombre d'attaques terroristes a augmenté de 40% durant la même période, souligne l'Institut.
Élections anticipées au Japon. Le mois prochain, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé la dissolution du Parlement et la tenue d'un scrutin législatif 2 ans avant l'échéance prévue. Les médias japonais affirment que le vote pourrait avoir lieu le 14 décembre.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Michel Kafando a été investi président intérimaire du Burkina Faso ce matin, avec la tâche de conduire la transition pendant 1 an jusqu'aux élections. Monsieur Kafando a promis de respecter la constitution et la charte de transition lors de sa prestation de serment à Ouagadougou qui a été retransmise sur les chaînes nationales.
Le nouveau président est maintenant chargé de nommer un premier ministre et d'aider à créer un gouvernement provisoire de 25 membres qui mènera le Burkina Faso aux élections en novembre 2015. Michel Kafando, ancien diplomate burkinabé, a été choisi comme président par intérim hier par un comité de représentants de l'armée, de partis politiques, de la société civile et de la communauté religieuse.
Voici un extrait de son discours.
Par la cérémonie solennelle à laquelle vous venez de procéder, vous avez bien voulu en quelque sorte sacraliser les fonctions qui m'investissent officiellement comme président transitoire du FASO. Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple et que de ce fait, on exerce ne doit souffrir d'aucun abus, d'aucun excès. Faute d'avoir observé cette suprême vérité, des pouvoirs politiques, même érigés en forteresse, ont définitivement scellé leur destin. Pour ma part, je tiens à vous rassurer que l'autorité que nous entendons incarner, je dis bien nous avec le gouvernement et le Conseil national transitoire, nous serons hautement respectueux de notre constitution et de la charte que nous venons d'adopter.
C'était le nouveau président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Côte d'Ivoire, des militaires réclament de l'avancement et de meilleurs soldes. Ils ont manifesté dans plusieurs villes. La grogne a démarré à Bouéké, deuxième ville du pays, puis s'est propagée au camp Akouédou, la principale caserne d'Abidjan. Les soldats en colère ont tiré en l'air à Boundoukou et à Bengourou, dans l'est du pays.
Idriss Fall a joint Alexis Tano du journal Le Jour Plus à Abidjan. On l'écoute.
On peut appeler ça une mutinerie, hein, une sorte de mécontentement des militaires qui est parti de Bouaké, ça a touché Abidjan, Abidjan, San Pedro, même Daloa, ce sont deux autres villes de l'intérieur qui ont été vraiment touchées par cette vague de mécontentement des jeunes soldats ivoiriens. Ils manifesteraient pour des primes qu'on leur aurait promis après la sortie de crise. Ils sont sortis Ils ont érigé des barricades sur des voies publiques, manifestaient, ils étaient armés, mais à la différence de ce qu'on a toujours connu, il n'y a pas eu de véhicules arrachés, il n'y a pas eu de population réprimée ni brûlée, mais ils étaient violents d'une certaine façon. Et ils faisaient peur quand on voit ce qu'on a déjà vécu, ça faisait peur tout de même, même s'ils n'ont pas touché aux biens privés, ni publics, ni aux populations. Mais ils ont même provoqué la fermeture de certains établissements à Bobo, par exemple, où la situation n'était pas possible. Les écoles ont dû fermer, les commerces aussi, même à Douafé, c'était pareil, les écoles ont dû fermer, les commerces ont dû fermer.
Et apparemment, le ministre de la Défense, Paul Kofi, a aussitôt pris les devants et fait des promesses.
Oui, il a fait des promesses, c'était en début d'après-midi, il est sorti, il a lu un communiqué du chef de l'État, il a même promis de verser une partie des primes à la fin de ce mois de novembre, l'autre moitié à la fin du mois de décembre, mais bon, ça reste des promesses. Donc on attend de voir si à l'échéance ces promesses seront tenues.
Cela prouve quand même un malaise à l'intérieur de l'armée constituée par d'anciens rebelles, non?
Tout à fait. Cela se sentait depuis un moment. Les anciens chefs rebelles ont été promis, ça suscitait des mécontentements. Ça, tout le monde le sait. Parce que les gens disaient que ce n'est pas eux qui ont fait la guerre. Les petits soldats qui ont fait la guerre n'ont pas connu cette promotion et que c'est les autres qui sont promis à leur place. Donc, ça suscitait beaucoup de mécontentement. Depuis longtemps, ça avait été de l'armée. Cette grogne-là existait. Les malaises pouvaient.
Notre confrère Alexis Tanneau du journal Le Jour Plus à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
La jeunesse, un trésor insoupçonné pour les pays pauvres. C'est là une conclusion du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui constate que les pays en développement pourraient nettement améliorer leur productivité en investissant dans leur jeunesse. Écoutez Jean-Roger Bion.
Les jeunes sont souvent trop ignorés et les pays qui continuent de voir en eux un fardeau le font à leurs dépens. Le FNUAP assure que les pays qui investissent sérieusement dans l'éducation, les compétences et la santé des jeunes, y compris dans la santé sexuelle et reproductive, auront en retour d'énormes dividendes. 1,8 milliard de personnes dans le monde ont entre 10 et 24 ans. C'est un capital qui peut sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté pourvu que les gouvernements leur fournissent des emplois et renforcent leurs capacités, estime l'agence onusienne. Alena Hermitage, directrice au FNUAP à Genève, nous situe les enjeux pour l'Afrique.
If sub-Saharan Africa drew on East Asia's experience, adapted it to its local context and made...
Si l'Afrique subsaharienne s'appuie sur l'exemple de l'Asie de l'Est, l'adapte à son contexte en faisant des investissements similaires chez les jeunes, la région pourrait connaître son propre miracle économique avec une valeur ajoutée de 500 milliards de dollars pour ses économies chaque année sur une durée allant jusqu'à 30 ans.
Malheureusement, trop de gouvernements laissent leur jeunesse en rade. La majorité des jeunes qui vivent dans les pays sous-développés font face à la violence, à un manque d'éducation et d'accès aux soins de santé. Elena Armitage.
On estime à 120 millions le nombre de jeunes déversés sur le marché du travail chaque année. Le rapport du FNAP montre que les jeunes représentent déjà la moitié des chômeurs. Au cours de la révolution sociale, de plus en plus de jeunes aujourd'hui découvrent les inégalités, la discrimination et l'exclusion. Les jeunes femmes et les adolescentes rencontrent plus d'obstacles que les hommes et les garçons pour la construction de leurs capacités et ont du mal à saisir les opportunités en jouissant de leurs droits.
Le rapport du FNUAP présente un certain nombre de recommandations concrètes pour accroître l'investissement dans le renforcement des compétences et des connaissances des jeunes. Il appelle à élargir l'accès à la contraception, à créer plus d'emplois et à mettre les nouvelles technologies à la portée des jeunes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Aux États-Unis, quelques 900 000 étudiants étrangers sont inscrits dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. 50% d'entre eux viennent d'Asie, surtout de la Chine. Parmi tous les pays du monde, ce sont les États-Unis qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Lionel Gaïma.
Selon un nouveau rapport de l'Institut de l'éducation internationale, on comptait 886 000 étudiants étrangers inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur américains pendant l'année universitaire 2013-2014. Il s'agit d'une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente et du double de leur nombre en l'espace de 10 ans. Cette tendance est due en grande partie à l'arrivée des étudiants chinois du premier cycle comme Eric Xu de l'Université Columbia. Aux États-Unis, ils mettent l'accent sur les discussions en classe, votre opinion et votre habileté à débattre les autres, tels que les professeurs ou enseignants. C'est une atmosphère dont je veux faire l'expérience. On a également vu pendant la dernière année universitaire une augmentation du nombre d'étudiants venant du Koweït, du Brésil, d'Arabie Saoudite et même d'Iran. Plus de 4% des étudiants inscrits dans les quelque 4000 universités et établissements d'enseignement supérieur américains viennent de l'étranger. Et leur présence est saluée par les éducateurs qui estiment qu'il y a de la place pour encore plus dans ces établissements. Rajik Abadari de l'Institut de l'éducation internationale. Nous savons que les étudiants étrangers apportent beaucoup aux classes et campus américains grâce à leur perspective internationale et à ce contact qui permet à leurs condisciples américains de découvrir quelque chose que seule la chance d'étudier à l'étranger leur aurait apprise. Outre ce rendez-vous du donner du recevoir, la présence des étudiants contribue aussi à la santé de l'économie américaine. Ivan Ryan, secrétaire d'État adjoint à l'éducation.
This year, $27 billion.
Cette année, il y a eu une contribution de 27 milliards de dollars à notre économie, au niveau local, étatique et national, grâce au paiement des frais d'études, de logement et autres coûts. Le département d'État et le département américain de l'éducation encouragent aussi les jeunes américains à aller étudier à l'étranger. Nous pensons que les études à l'étranger peuvent accroître la compétitivité américaine en permettant aux étudiants américains d'apprendre des nouvelles langues, ainsi que les connaissances régionales et mondiales nécessaires pour réussir dans ce 21e siècle. En fait, quelque 290 000 jeunes américains ont été étudiés à l'étranger en 2012-2013. L'Europe, la Grande-Bretagne en particulier, restent leur région favorite. Mais selon le dernier rapport Open Doors de l'Institut de l'éducation internationale, de plus en plus d'étudiants des États-Unis choisissent des pays d'Amérique latine et la Chine.
Le Monde, aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, Nathalie Barge et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. La page sport, Nathalie.
Oui, alors le Bénin n'a plus de sélectionneur.
Oui, Didier Olé-Nicole n'aura pas résisté longtemps à la déculottée subie par les écureuils face au Maroc 6-1 jeudi dernier à Agadir. La fédération béninoise a annoncé ce mardi le limogeage du technicien français. Arrivé en poste au mois de mars dernier en remplacement de Manuel Amoros, l'ancien entraîneur de Clermont et Nice était en sursis après son échec à qualifier le Bénin pour la phase de poule des éliminatoires de la CAN 2015.
Et parlons un petit peu cyclisme maintenant, le Tour du Rwanda.
Eh bien aujourd'hui c'est la deuxième étape du Tour du Rwanda, 151,5 km entre Rwamagana et Musonze. Et l'étape a été remportée par le Rwandais Valens Ndayisenga qui s'impose en solitaire avec 59 secondes d'avance sur l'Érythréen Mekseb Debesay. Valens Ndayisenga prend du coup le maillot jaune de leader au classement général devant son compatriote et coéquipier Jean Bosco Nsengimana. Avec un budget de plus de $550 000, ce Tour des Mille Collines, comme on l'appelle, espère se faire un nom parmi les grandes compétitions cyclistes africaines. Le président de la Fédération rwandaise de cyclisme, Aimable Bayingana.
Nous avons des partenaires d'abord gouvernementaux avec le ministère des Sports et de la Culture. Ensuite, nous avons les sociétés privées. En fait, le gouvernemental et le privé partagent le budget du tour moitié-moitié.
Quelles sont les équipes qui sont là sur ce tour 2014 ?
Nous avons quand même les meilleures équipes africaines, à savoir les équipes érythréennes. Nous avons deux équipes érythréennes, une équipe, un club et l'équipe nationale. Ensuite, nous avons l'équipe nationale du Maroc et l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Ce sont, elles, parmi les meilleures équipes du continent. Nous avons les équipes nationales d'Éthiopie aussi. L'Éthiopie, c'est un pays quand même qui émerge actuellement sur le plan du cyclisme en Afrique. Et en dehors de l'Afrique, nous avons une équipe Haute-Savoie de France. Nous avons une équipe suisse. Ensuite, suite une équipe allemande. Et l'équipe allemande, c'est dans laquelle joue l'Érythréen qui a gagné l'étape d'aujourd'hui et qui est également le mieux classé sur le calendrier continental.
Quelle est un peu la philosophie de cette compétition rwandaise ?
Il s'agit en fait de développer ce sport qui est resté à la traîne par rapport aux autres continents, parce que l'Afrique est restée à la traîne dans le domaine du cyclisme. Et nous avons beaucoup de potentiel dans notre région, étant donné que c'est une région de pays de haute montagne. Les gens, ils ont quand même une certaine résistance par rapport au reste. Donc nous voulons que les gens nous soutiennent dans ce domaine. Nous voulons quand même être l'un des meilleurs pays du cyclisme en Afrique.
Voilà le président de la Fédération rwandaise de cyclisme, Aimable Bayingana, joint par Nicolas Pino. Et demain, la troisième étape entre Musanze et Mwanga.
Et enfin, pour nos auditeurs, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Chicago Bulls ont obtenu un succès impressionnant chez les Los Angeles Clippers, 105-89. Cleveland Cavaliers, première défaite pour Cleveland en 5 matchs contre Denver, 97-106. Dallas a battu Charlotte, 107-80. Phoenix l'a emporté sur Boston, 118-114. Et Miami a battu Brooklyn 95-83. Autre résultat, Nathalie, Orlando 107-93, Houston 119, Memphis 93. Et puis, mon équipe, comme d'habitude, San Antonio Spurs, qui a battu Philadelphie 100-75.
Très bien, merci beaucoup, Chérubin Dorsil, pour ces sports. À présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie, salut Gabi. Hein. Gabi, de retour. Ouais, c'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu.
Heureux de te retrouver. C'est bon de savoir qu'on a un bon pilote dans l'avion.
Mais c'est nécessaire, c'est très important. Mais écoutez, elle a une voix pure, une technique vocale sublime hein, et un instrumental audacieux et imaginatif d'ailleurs. L'artiste Maréma représente un nouvel enrichissement du patrimoine musical universel. Elle a un style impressionnant, fusionnant influence africaine et internationale. On l'écoute ce soir sur VOA Afrique dans Femmes d'affaires.
Maréma est née dans la banlieue dakaroise, Roger, de père mauritanien et de mère sénégalaise. Alors le métissage teinte naturellement son identité, n'est-ce pas ?
Très important, Nathalie. Uh-huh. Son expérience d'ailleurs aussi hein, de vie lui forge un caractère de battante. Dans son univers familial, elle fut très tôt bercée par la musique acoustique de la chanteuse américaine hein, Tracy Chapman. Tu connais Tracy Chapman, hein, cher Rubin ? Tu connais, non ?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais c'est parce que sa maman était fan hein, de Tracy Chapman. Elle emprunte des multiples voix pour parfaire sa voix hein, et a fréquenté bien sûr assidûment l'école de musique de la maison de culture d'Outa Sec. On écoute.
Et après ses études, Roger a débuté en tant que choriste, n'est-ce pas, auprès de grands artistes sénégalais.
Exactement, les artistes comme Awadi, Yoro, Ndiaye, Edou Boukandé, beaucoup, beaucoup d'autres artistes, Nathalie.
Merci beaucoup, Roger Muntou. C'était de Maréma, fait. Femme d'affaires. On vous retrouve tout à l'heure dans le RM Show.
Super.
Super.
Voilà, c'est la fin de cette édition, Nathalie.
Oui, très bien. Oui, c'est la fin, en effet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ici, Akaba a dirigé la mise en onde. Avec vous, c'était Nathalie Barge.
Chez Robin Dorsil, merci aussi à Brian Marcoulier à la technique.
Et à très bientôt. Au revoir.